J'invite à tourner avec moi dans la parole de Dieu dans 1 Roi, chapitre 17. Nous allons continuer l'étude que nous avons commencée la semaine dernière. 1 Roi, chapitre 17. La semaine passée, nous avons vu le verset 1. Cette semaine, on va lire ensemble les versets 2 à 7. Alors, Élie vient d'annoncer qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Et là, au verset 2, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore une fois ce matin te rendre grâce, Seigneur, pour cette parole que tu nous as laissée. Merci, Seigneur, pour les miracles que tu as accomplis dans l'Ancien Testament. Merci aussi pour les miracles que tu as accomplis dans le Nouveau Testament. Merci aussi pour les miracles que tu accomplis jour après jour dans ton Église, en permettant que des gens entendent non seulement ton Évangile, mais passent par cette nouvelle naissance qui fait d'eux les citoyens du royaume des cieux. Ce matin, Seigneur, nous voulons que ton Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs. Nous ne voulons pas seulement entendre avec nos oreilles, nous voulons aussi, Seigneur, entendre avec notre cœur. Nous ne voulons pas seulement être des auditeurs, mais nous voulons aussi, Seigneur, mettre en pratique ce que tu nous enseigneras ce matin pour la plus grande gloire de ton nom. Seigneur, viens à notre aide, viens à mon aide, Seigneur, afin que ce qui se dira, Seigneur, du haut de la chair, soit uniquement de toi, et non pas le fruit de l'opinion d'un homme, parce que, Seigneur, c'est ta voix, ta parole que nous voulons entendre. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, la dernière fois, nous avons vu que Dieu prend un homme que personne ne connaît et qu'il va l'utiliser pour secouer le trône et la nation d'Israël, qui s'était mis à adorer un dieu païen, le dieu Baal, connu pour être le dieu de la fertilité. Et selon Jérémie, chapitre 19, verset 5, eh bien, les Israélites avaient aménagé un emplacement qui était consacré à ce dieu pour y brûler leurs fils en sacrifice. Alors, il n'y avait rien de plus épouvantable que ça, quoi, pour les Israélites. Et alors, on avait établi des lieux de sacrifice pour brûler les fils afin d'obtenir les faveurs du dieu Baal, et c'était Jézabel, la femme du roi Achab, qui avait amené le peuple d'Israël à adorer le dieu Baal. On a vu la semaine dernière que le peuple vivait dans un péché épouvantable, c'était l'apostasie, autant chez les prêtres que chez le peuple, et quand c'est l'apostasie, eh bien, autant dans l'Église que dans le monde, eh bien, on peut voir le péché y abonder. Pourquoi? Parce que l'Église vit comme le monde, et le monde vit dans l'Église. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu va envoyer, va lever un homme, va lever une femme pour secouer son peuple, pour secouer ce monde, afin de ramener les gens à pratiquer sa parole. Et le péché de cette nation était comme une puanteur qui entrait dans les narines de Dieu, qui était dégoûté par tout ce qui se passait en Israël. On ne peut pas s'imaginer ce qui se passait à ce moment-là. Des parents, écoutez, si je vous disais ça aujourd'hui devant cette chair, bien, le Seigneur voudrait que vous offriez un sacrifice, pas votre cœur, mais qu'il vous offriez le sacrifice d'offrir un de vos enfants pour obtenir ses faveurs, pour qu'il puisse vous donner de la richesse, pour qu'il puisse vous garder en santé, et ainsi de suite. Là, vous me traiteriez de fou parce que vous ne vivez pas dans l'apostasie, quoi. Mais ces gens-là, c'est ce qu'on leur disait, ils le faisaient, quoi. Ça vous donne une idée jusqu'où ils étaient rendus dans le péché, et jusqu'où ils étaient éloignés de ce Dieu qui les avait délivrés du pays d'Égypte. Et à travers cette génération corrompue, il y a quelqu'un qui est fidèle à Dieu, et Dieu ne l'oublie pas. Et parce que l'Éternel est sa force, on a vu ça la semaine passée, Élie va faire face à cette société qui vit sans Dieu, et parce qu'il savait qu'il pouvait compter sur Dieu, il va annoncer que le pays va connaître une période de sécheresse qui va durer 3 ans et demi. Et l'Éternel s'intéresse non seulement à votre sécurité, frères et sœurs, mais aussi à votre sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Il ne cherche pas des gens qualifiés, mais des gens consacrés. Et c'est le problème qu'on a souvent dans nos églises aujourd'hui. On cherche des gens qualifiés, mais qui ne sont pas consacrés. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est des gens qui sont consacrés et qui ne sont pas nécessairement qualifiés aux yeux des hommes, parce que c'est Dieu qui les qualifie. Je t'emmène à ça. Ça, c'est très important. On a des gens qui viennent du monde, qui rentrent dans l'Église. Ils ont beaucoup de potentiel, ils ont beaucoup de capacités. Ils viennent au Seigneur, on se réjouit et tout de suite, on leur donne souvent des responsabilités. On voit en eux des hommes et des femmes, des serviteurs, des servantes de Dieu, mais ils sont qualifiés au point de vue humain. Mais ce que Dieu veut, c'est des gens qui sont consacrés. Et pour être consacré, ça passe par le brisement. Dieu passe par le brisement, parce que Dieu, c'est pas sur vos capacités qu'il veut compter pour faire en sorte que son royaume avance. C'est sur sa capacité à lui, c'est sur sa force. Qu'on soit capable de dire, quand on le sert, l'Éternel est ma force. Et je puis tout par celui qui me fortifie. On a vu la semaine passée la différence entre fortifier et ma force. Je t'amène à ça ce matin. Oui, c'est vrai, quoi. C'est vrai. Et je le vois dans différents endroits où je vais. Il y a des gens qui ont beaucoup de capacités, mais qui n'ont jamais été brisés, quoi. Ce sont des leaders comme le monde aime. Mais ce n'est pas des leaders comme Dieu veut dans son Église. Ça a pris 40 ans à Dieu pour briser Moïse. Ça a pris 40 ans à Dieu pour former Moïse. Ça a pris un temps aussi à Dieu pour former David. Ça a pris un temps à Dieu pour former ceux qui ont, à travers qui il a accompli des choses extraordinaires, mais ce sont tous des hommes qui ont été brisés. Des hommes où Dieu les a amenés à un point où ils ne pouvaient que dire « L'Éternel est ma force. » Et Seigneur Jésus, sans toi, je ne peux rien faire. C'est pas « Seigneur, regarde ce que je peux faire pour toi. » C'est « Seigneur, fais en sorte que moi je disparaisse et que toi tu... » C'est Jean-Baptiste qui dit ça. Hein? Ouais. Moi que je diminue, que lui, Jésus... Merci. Voilà. Si le monde regarde très souvent celui qui est fidèle en pensant qu'il est fichu, il ne faut jamais penser ainsi, parce que Dieu prend soin de ceux qui lui obéissent, et il va intervenir ici pour préserver, pour délivrer Élie de cette situation dangereuse. Ici, Dieu va délivrer Élie par un commandement, verset 4, il va lui dire, verset 3, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. » Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. C'est extraordinaire, hein? C'est fort, hein? Souvent, les gens, Dieu utilise des gens pour proclamer l'Évangile. Les êtres humains entendent l'Évangile, ils écoutent, mais ils n'entendent pas. Et ici, c'est extraordinaire, Dieu parle aux animaux. Les animaux vont obéir à Dieu, ils vont le servir. C'est des belles leçons pour nous, hein? Et en plus, ici, Dieu ne choisit pas, moi j'aime ça, l'ironie du Seigneur, Dieu ne choisit pas des colombes. Dieu ne choisit pas des tourterelles. Il choisit des animaux impurs pour servir. Et oui, les corbeaux. Selon la loi, les corbeaux, c'était des oiseaux impurs. On ne devait pas y toucher. Ce sont des gens qui étaient, c'est des charognards. Et Dieu va les utiliser pour nourrir son serviteur. C'est difficile à cerner Dieu, hein? Saül le faisait à sa tête. C'est pas le diable qui va y envoyer un mauvais esprit. C'est Dieu qui envoie un mauvais esprit. Chez Saül. Tu sais, la cerner Dieu, hein? Dieu n'a pas de compte à rendre à personne. Et Dieu utilise ce qu'il veut sous sa main pour faire en sorte de provoquer un réveil, de faire en sorte que les gens puissent avancer. Selon le verset 4, Dieu avait prévu d'accomplir des miracles pour Élie lorsqu'il arriverait là. Kérit, qui veut dire en hébreu sécheresse. Là aussi, c'est une belle ironie. Va à Kérit. Va là où il n'est pas censé avoir d'eau parce qu'on est en pleine sécheresse, Élie. Voilà, je t'envoie là, pas une source, pas n'importe quelle source, la source où il n'est pas censé avoir de l'eau. Quand on obéit au Seigneur, le Seigneur, on voit le Seigneur faire des miracles dans nos vies. On voit la puissance de Dieu se manifester dans nos vies. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est le ruisseau de la région qui est le plus prédisposé à se dessécher. Pourtant, à côté de ce torrent qui est sujet à se dessécher d'un jour à l'autre, il y boit, il y mange, et apprend chaque jour que Dieu est Dieu et qu'il peut donc accomplir parfaitement sa volonté parce qu'il est tout-puissant. Il n'est pas comme nous gouverné ou limité par les lois de la nature. Au contraire, il est maître des lois de la nature. Cette eau coulait miraculeusement. Ces corbeaux venaient miraculeusement parce que Dieu est Dieu qui n'a besoin de personne. Et Élie avait besoin d'apprendre cette leçon parce que dans quelques années, il sera seul au mont du Carmel à faire face à 400 prophètes de Baal. Seul en apparence, mais parce qu'il obéit à la parole, parce qu'il est fidèle au Seigneur. Il n'est pas seul, l'Éternel est sa force. Et Dieu va agir à travers lui. Frères et sœurs, avez-vous la conviction que ce que Dieu veut que vous proclamiez dans votre cœur, c'est que l'Éternel est votre force? Avez-vous cette conviction ce matin que Dieu veut agir à travers vous? Avez-vous la conviction que ce matin, les miracles, c'est pas pour avant-hier, ni hier, ni autrefois, que les miracles, Dieu veut encore en accomplir à travers vous dans vos vies aujourd'hui? Si vous n'avez pas cette conviction-là, Dieu ne peut rien faire pour vous. Et Dieu ne peut rien faire à travers vous, frères et sœurs. Et ça marche par l'obéissance. J'aimerais vous poser cette question ce matin. Il y a deux petits mots qui m'ont frappé dans ce passage. C'est au verset 4 et au verset 9. Regardez à première vue, il y a un mot qui revient deux fois, dans le 4 et dans le 9. OK. Mais il y a encore un petit mot qui est plus important que ça. Écoutez, on ne le voit presque pas. Et la question que je vais vous poser avant de vous sortir ces deux petits mots-là, c'est est-ce que vous êtes là? Je vous pose la question ce matin, est-ce que vous êtes là? Vous vous dites peut-être, mais c'est où là? Je vous répondrai en disant que pour Élie, là, j'essaie de le dire pas en québécois, mais en bon français, là, ce fut un torrent, et plus tard, la maison d'une veuve. Pour Noé, là, c'était l'arche. Pour Daniel, là, c'était un endroit pour prier qui va le conduire dans une cage au lion. Pour les trois garçons hébreux, Shédrach, Meshach et Abednego, le là, c'était la fournaise ardente. Pour Ruth, là, c'était un champ qui appartenait à Boaz. Pour David, là, ce fut le trône d'Israël. Pour Paul, le là, ce fut une cellule de prison. Et pour Jésus, le là, ce fut une croix. Et parce qu'il s'est rendu là, à la croix, tous ceux qui croient en lui reçoivent le pardon de leurs péchés, et à travers la résurrection, la vie éternelle. En d'autres mots, là, c'est l'endroit où Dieu vous a demandé d'être. Là, c'est être dans la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Lorsque vous serez là où vous devez être, vous le saurez. Et lorsque vous ne serez pas là où vous devez être, vous le saurez également. Lorsque vous serez là où Dieu vous a demandé d'être, il y a certaines choses que vous découvrirez à cet endroit que personne d'autre ne peut découvrir parce que vous serez là où Dieu veut que vous soyez. Verset 4, verset 9. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Frères et sœurs, ce matin, la première question que je pourrais vous poser spirituellement, est-ce que vous en êtes rendu là où Dieu veut que vous soyez? C'est une première question que Dieu nous pose ce matin. Dans votre relation avec Jésus-Christ, est-ce que vous êtes rendu là où Dieu veut que vous soyez? Parce que si vous n'êtes pas là où Dieu veut que vous soyez dans votre relation avec Jésus-Christ, vous ne pouvez pas recevoir des miracles, vous ne pouvez pas voir des miracles et Dieu ne peut pas faire de miracles à travers vous. Parce que c'est quand vous êtes là où Dieu veut que vous soyez que Dieu manifeste sa puissance et que vous voyez des miracles s'accomplir. C'est exactement ce qui est arrivé à Élie. Élie était là où Dieu lui a demandé d'aller. Élie a obéi quand Dieu lui a dit d'aller là où Élie a obéi et Dieu a accompli de grandes choses à travers lui. Est-ce que vous êtes rendu là où Dieu veut que vous soyez, frères et sœurs, ce matin? Si vous n'êtes pas là où Dieu veut que vous soyez, je vais vous encourager ce matin à vous trouver là et à rester là où Dieu veut que vous soyez. L'Éternel dit à Élie, pars de là et va demeurer là. Et c'est exactement ce qu'Élie fait. Il ne pose pas de questions, Élie. Il part du torrent et il s'en va à Sarepta. Parce que lorsque vous êtes là où Dieu vous demande d'être comme Élie, vous voyez alors Dieu agir de façon miraculeuse dans votre vie. Examinons ensemble ce que la Bible nous enseigne sur les bénédictions qui vous attendent si vous êtes là où Dieu veut que vous soyez. Ernest, est-ce qu'on peut baisser le chauffage un peu? Sinon, moi, je vais tomber. Ou je vais mettre un maillot de bain. Mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un froid ici? Non, je ne suis pas de respecter ça ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un froid? Joël, surtout pas toi. Sirness, d'avoir pitié d'un pauvre homme. Dieu avait promis à Élie que des corbeaux le nourriraient là, au torrent. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, nous dit le texte, et Dieu dit alors à Élie de se rendre à Sarepta et d'y demeurer là, car il a fait en sorte que les besoins d'Élie soient aussi rencontrés là, à Sarepta. Il ordonna une femme veuve de le nourrir, elle va donc se rendre là, où le Seigneur lui a ordonné d'être, et il va découvrir que Dieu est aussi fidèle que sa parole, que ce soit au torrent ou à la maison de la veuve, parce qu'Élie était là où Dieu voulait qu'il soit. Dieu va pourvoir à ses besoins et va le bénir. Et frères et sœurs, si vous êtes là où Dieu veut que vous soyez, Dieu va répondre à vos besoins et Dieu va vous bénir. Amen. Ouais. Ça, c'est un amen chétif, malade. Est-ce que vous dites amen à ça? Là, je me sens moins seul en avant. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est sa parole qui nous le dit. Et sa parole, elle ne fait pas juste nous le dire, elle nous donne un exemple à travers Élie. Elle nous donne un exemple à travers Moïse. Elle nous donne un exemple à travers Noé. Elle nous donne un exemple à travers David. Elle nous donne un exemple à travers Gédéon. Et on en a parlé la semaine passée, Gédéon. Un peu heureux, caché derrière une machine. Et Jésus lui dit, et le Seigneur lui dit, viens, vaillant héros, vaillant héros. Moi, s'il m'avait dit ça, j'étais Gédéon, je regardais, moi, s'il n'y avait pas quelqu'un derrière de moi, quoi. Hein? C'est vrai. On est des héros, quoi, sans Dieu. Quand on laisse Dieu agir à travers nous, on devient des héros en Jésus-Christ. Pas des héros par nous-mêmes, mais parce que Jésus, on est uni à Jésus-Christ. Lorsque vous vous rendez là où Dieu veut que vous soyez, vous découvrirez que Dieu fait toujours ce qu'il a promis de faire, parce que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il a accru sa renommée pour l'accomplissement de ses promesses, Psaume 138, verset 2. Et ceux qui sont arrivés là où ils voulaient sont en position de le voir faire infiniment au-delà de tout ce qu'ils ont demandé ou pensé. Car là où Dieu vous envoie, frères et sœurs, il prend soin de vous. Simplement rappeler aux gens de fermer votre GSM. Quand Élie était là à Kérit, il voyait des corbeaux lui apporter du pain et de la viande le matin et le soir. C'est incroyable ce qui se passe près de ce torrent. Lorsqu'il s'est rendu à la maison de la veuve, frères et sœurs, il a vu le Seigneur suspendre les lois même de la nature pour pouvoir à ses besoins, et aux besoins de la famille de la veuve. Frères et sœurs, lorsque vous êtes là où Dieu veut que vous soyez dans votre vie, vous découvrirez que le Dieu qui promet est aussi le Dieu qui peut pourvoir. Il sait comment rencontrer les besoins de ses enfants. Mais vous devez être là où Dieu veut que vous soyez. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la vie juste qu'il demande. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Frères et sœurs, c'est entre vous et nous. Hein? Qu'est-ce que vous cherchez ce matin dans votre vie? Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, est assis le Seigneur Jésus. Ne vous attachez pas aux choses d'en bas, attachez vos choses d'en haut, parce que vous êtes des citoyens du royaume des cieux. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous cherchez ce matin? Si on cherche autre chose que le royaume de Dieu et la vie juste que Dieu demande, on va travailler comme des saints aidés pour essayer de finir les fins de mois, pour essayer de boucler les fins de mois. On va avoir de la difficulté à s'endormir de peur de perdre notre travail, de peur de manquer d'argent, de peur de manquer du nécessaire. Si on cherche les choses du royaume de Dieu, il y a une promesse qui est dans ce passage-là, frères et sœurs. Si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et la vie juste qu'il demande, Dieu vous dit, écoute, moi je ne perdrai pas mon nom à cause de toi. Je vais pourvoir à tous tes besoins, tu manqueras de rien. Et tu auras des miracles s'accomplir dans ma vie. L'obéissance, frères et sœurs, dans la foi dans le Nouveau Testament, elle est toujours accompagnée de l'obéissance. Et celui qui obéit dans le Nouveau Testament, c'est parce qu'il a la foi. L'un ne va jamais sans l'autre. Et dans Hébreu, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus est l'auteur du salut éternel, pas pour tous ceux qui croient en lui, pour tous ceux qui lui obéissent. Celui qui n'a pas la foi, il ne peut pas obéir. Celui qui veut montrer qu'il a de la foi, il obéit. Les deux ne peuvent pas se dissocier. Vous ne pouvez pas dissocier un et l'autre dans le Nouveau Testament. Élie ici, c'est un croyant de l'Ancien Testament. Et il va obéir à Dieu. C'est vrai qu'il va avoir ses faiblesses. Je l'ai dit la semaine passée. Quand il va mettre de côté la parole de Dieu pour écouter la parole de Jézabel, il va paniquer. Il fait comme nous. Quand on commence à écouter ce qui se dit dans le monde, quand on écoute la radio, la télévision, quand on lit les journaux, hop, la parole de Dieu, elle s'enfonce un peu plus profondément, là. C'est les nouvelles qui nous assaillent, et puis qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait comme Élie, on va se cacher. On va se cacher, on a peur. On ne dit pas au monde qu'on est chrétien, puis on dit surtout pas au monde ce qu'ils peuvent faire pour être sauvés. On a peur. On a peur parce que la parole du monde a pris le dessus sur la parole de Dieu. Mais lorsque Dieu va lui parler, lorsque la voix de Jézabel va s'effacer, que la parole de Dieu va revenir dans la vie, elle va trôner, elle va régner dans la vie d'Élie, eh bien, il redevient le chrétien que Dieu lui demande d'être. Et c'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. À chaque fois qu'Élie sera là où Dieu veut qu'il soit, il va apprendre que Dieu est Dieu et qu'il est à l'œuvre en tout temps. Remarquez dans les versets 4 et 9 qu'avant même qu'il ordonne aux prophètes de se rendre à Kérit et à Sarepta, il avait déjà parlé au corbeau et à la veuve. En d'autres mots, avant même qu'Élie exprime son besoin à Dieu, celui-ci avait déjà pourvu à son besoin. Pas merveilleux, ça? Ceux qui marchent avec Dieu, qui par obéissance se rendent là où Dieu veut qu'ils soient, en viennent bientôt à comprendre qu'ils servent un Dieu qui n'est pas lié ni limité par le temps et par l'espace. Il les transcende tous les deux. Dieu est au-dessus de tout ça. Il sait ce qui vous arrivera demain et peu importe ce qui vous arrivera, cela fait partie de ce qu'il a déjà planifié d'avance pour vous. Rien n'arrive par accident avec Dieu. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Il désire seulement réaliser son plan dans la vie de chacun de ses enfants. Vous êtes unique aux yeux de Dieu. Dieu va agir de façon unique à travers vous pour vous amener là où il veut vous amener. Il connaît votre degré d'entêtement, il connaît votre degré d'incrédulité, il va vous utiliser, il va provoquer des choses dans votre vie pour vous amener à avoir la foi nécessaire qui va vous pousser à obéir à sa parole sans poser de questions. Avez-vous remarqué ici? Élie, il dit, Élie, tu passes, tu t'en vas là. Élie, tu passes, tu t'en vas là. Élie, il dit pas pourquoi. Je pense que si Élie avait posé des questions, je pense que l'auteur l'aurait écrit. Parce qu'on aurait été en droit ce matin de dire, ben pourquoi Dieu tu veux m'envoyer là? Élie pose pas de questions. Élie, c'est un croyant de l'Ancien Testament. Il marche par la foi et il obéit à Dieu. Advienne que pourra. Seigneur, c'est ta voix que j'entends. Tu ordonnes, je pars, j'y vais. Si nous saisissons cette vérité, cela changera pour toujours notre façon de penser. Pourquoi? Parce que nous nous rappellerons que peu importe nos besoins, Dieu est toujours là pour y pourvoir. Vous ne verrez jamais Dieu se gratter la tête en se disant, « Ah ben celle-là, je ne l'avais pas vu venir, je ne savais pas que ça arriverait. » Jamais. Et ça fait partie de l'omniscience de Dieu. Jamais Dieu est pris court par des événements que les hommes provoquent dans le monde. Jamais. Jamais Dieu a été pris court par la Première Guerre mondiale. Jamais Dieu a été pris court par la Deuxième. Et pour tout ce qui arrivera par la suite, Dieu n'est jamais pris court. Dieu voyage dans l'éternité. Avez-vous déjà essayé de penser que Dieu voyage dans l'éternité? Il est autant dans l'an 1 que dans l'an 2000 que dans l'an 3000, si on se rend jusqu'à l'an 3000. Il voyage en éternité. Le temps compte pas pour Dieu, quoi. Et avant même qu'il crée le monde, il savait déjà ce qui se passait. Dieu voyait déjà ce qui arriverait. On n'est pas capable de comprendre ça, nous. On fonctionne avec les secondes, les minutes, les heures, les années, les jours, les années. C'est impossible de rentrer dans ce domaine-là avec Dieu, quoi. Nous, on est temporel, quoi. Mais Dieu est éternel. On est incapable. On va comprendre ça quand on sera rendu de l'autre côté, parce que là, on va rentrer dans le domaine de l'éternité. Mais avant ça, on est limité, on n'est pas capable de comprendre ça. Et frères et sœurs, est-ce que vous savez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu? C'est pas extraordinaire, ça. Et en fonction de l'espérance dans laquelle vous vous trouvez, est-ce que vous êtes là où Dieu vous demande d'être ce matin? C'est la question qu'il nous pose à travers ce passage. Parce que là, parce qu'Élie se trouvait là où Dieu voulait qu'il soit, il a vu les corbeaux lui apporter de la viande et du pain. Il a vu une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche nourrir une veuve, son fils et lui-même pendant plusieurs mois. Il a vu le Seigneur ressusciter le fils de la veuve qui était mort. Frères et sœurs, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. C'est pour ça que quand Jésus a ressuscité des morts, on croyait que c'était Élie qui était revenu. Il n'y a qu'Élie qui a pu dans l'Ancien Testament. Personne n'avait ressuscité un mort avant Élie. Quel ministère de puissance il avait. Et moi, ce qui me plaît à travers le Seigneur, c'est que le Seigneur, écoutez, il nous sort des héros de la foi, entre guillemets, des héros de la foi, mais le Seigneur, il prend toujours pour nous encourager et pour qu'on arrête de se brancher sur nos manquements. Il a toujours pris soin de rajouter leur faiblesse. David, de l'adultère. Noé a levé le coude à un moment donné. Moïse, il a douté. Je parle pas bien. Et il a douté aussi. Il n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Il l'a vu. Vous regardez tous les héros de la foi. Hein? Et Dieu laisse leur faiblesse. Et Paul dira un jour, c'est à travers mes faiblesses que je suis. C'est à travers nos faiblesses que le Seigneur travaille. Moi, je ne comprends pas pourquoi le Seigneur m'utilise. Parce que je ne me sens pas fort. Je trouve qu'il est très, très patient avec moi. Mais c'est lui qui l'a décidé. Je vous l'ai déjà dit, la seule chose que je ne voulais pas faire dans ma vie, c'est être pasteur. C'est difficile de travailler avec les êtres humains. Même plus facile dans une usine. Hein? Vous savez, le film de Charlot, là, les temps modernes, hein? C'est même plus facile. Les machines ne posent pas de questions. Et tu vois passer des biscuits, tu vois passer des pièces d'automobile, puis tu zoomes, tu regardes, ça c'est pas bon, ça c'est bon. La machine a dit pas, hey, fais attention, tu fais pas ça, tu devrais pas agir comme ça, non. Les êtres humains. Un va dire tu fais bien, puis l'autre la même chose, va dire non, toi tu es pas correct, tu fais mal, quoi. Pas évident. C'est pas évident. Et frères et sœurs, c'est avec ça que Dieu a décidé de travailler, quoi. Pas avec ceux qui vivent dans le péché, à travers les faiblesses de ses enfants. C'est une différence. Le péché, ce n'est pas une faiblesse, quoi. Le péché, c'est une désobéissance à la parole de Dieu. On est faible. Dieu sait qu'on est faible. Et c'est quand il est de notre côté qu'on est fort. Et il y était fort quand Dieu était de son côté. Il est tombé dans des primes quand il a oublié ce que Dieu lui avait dit. Et c'est la même chose pour vous et moi, frère et soeur. Et comme il était se cachait sous un genêt et qu'il regrettait d'être venu au monde, mais c'est la même chose pour nous. Quand on oublie la parole de Dieu, non seulement on n'affiche pas trop tôt qu'on est chrétien, mais on a même le goût de tout abandonner. Et Dieu travaille avec des gens qui pensent comme ça des fois, avec des faibles. Et j'espère que ce matin, en Jésus-Christ, vous êtes tous des faibles, pour que lui puisse manifester sa gloire et sa puissance à travers vous ce matin. Lorsque vous serez là et que vous demeurez là où Dieu veut que vous soyez, vous serez en mesure de voir Dieu agir avec puissance dans votre vie. Beaucoup de gens vivent toute leur vie chrétienne sans jamais voir la puissance de Dieu se manifester dans leur vie. Pourquoi? Parce que dans leur relation avec lui, ils ne veulent se rendre là où Dieu veut les conduire. Ils ne veulent pas se rendre là où Dieu veut les conduire. Être là où Dieu veut que vous soyez vous placera quelquefois dans des situations qui seront hors de votre contrôle. Mais j'aimerais vous rappeler que lorsque vous n'avez pas le contrôle de votre vie, c'est Dieu qui la contrôle et c'est ceux qui sont dans cette situation-là, qui expérimentent la puissance de Dieu. Il n'y a pas eu la vie facile parce qu'il était fidèle à Dieu. Les gens qui marchent dans l'obéissance à Dieu, ils n'ont pas la vie facile. Mais Dieu les délivre de toutes les situations. Ça ne fait pas juste dans l'Ancien Testament, pas juste dans le Nouveau, à travers toute l'histoire de l'Église. Tous ceux qui ont voulu marcher fidèlement à Jésus-Christ ont été persécutés. C'est une promesse que Jésus donne dans Marc. Vous ferez de plus grandes choses que moi, mais vous serez aussi persécutés. On oublie cette promesse-là. Mais c'est une promesse du Seigneur. Et Paul le répète dans Timothée, « Sache que tous ceux qui veulent suivre fidèlement Jésus-Christ seront persécutés. » Et Élie n'y échappera pas. Frères et sœurs, peu importe la situation que vous vivez, Dieu est tout-puissant pour gérer cette situation. Nous pouvons être paralysés par la peur de nous rendre là où Dieu veut que nous allions. Parce que nous ne sommes pas certains d'être en mesure de pouvoir gérer notre vie là où Dieu nous appelle. Et en fait, vous ne serez jamais capable de la gérer, mais Dieu, lui, en est capable. Il peut tout et rien ne s'oppose à ses pensées. Job, chapitre 42, verset 2. Dieu peut tout et rien ne s'oppose à ses pensées. De plus, Jésus nous dit, écoutez, Matthieu 28, sachez-le, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné d'abord par le Père et ensuite, vous allez voir ma puissance se manifester à travers vous sur la terre. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas des gens qualifiés, c'est des gens consacrés. Hier, on a vu avec le groupe de jeunes l'histoire de 1 Samuel chapitre 17 avec David et Goliath. Vous savez que les deux armées étaient remplies de soldats qui étaient très, très compétents. Et on a lu le texte ensemble hier, mais le texte biblique est intéressant. Dans l'original, on a dit que ces soldats étaient écrasés par la peur. Ils n'avaient pas juste peur, ils étaient écrasés par la peur. Ils étaient tous qualifiés pour aller au combat, c'était des soldats d'expérience. Ils étaient tous qualifiés. Ils gardaient pas leurs yeux sur le Dieu qui pouvait jeter Goliath par terre. Ils gardaient leurs yeux sur Goliath. Ils étaient paralysés, terrassés par la peur. Et là, il y a un petit berger qui va venir, qui, par la grâce de Dieu, avait déjà étouffé un ours, avait déjà étouffé un lion. Et là, il vient. Et lui, il regarde pas s'il est qualifié. Lui, il marche pas par la vue. Il regarde pas le géant qui est en avant de lui. Il marche par la foi. Il regarde au Dieu qui est au-dessus du géant. Il est insulté d'entendre les paroles que Goliath va lancer au peuple de Dieu. Il dit au roi, c'est intolérable ces insultes que ce païen lance au peuple de Dieu. Moi, je vais aller combattre au nom de l'Éternel. Et ce qui est intéressant, on a relevé aussi dans l'étude qu'on a faite hier, c'est que quand David va s'avancer, il n'avait pas besoin d'armure, David, hein? C'est pas l'armure des hommes qu'il avait besoin. Il n'avait pas besoin de l'épée des hommes, hein, pour aller combattre Goliath. Il avait l'épée de l'Esprit, il avait la parole de Dieu en lui. Il avait la foi. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte nous dit que Goliath marchait, équipé. Je vous dis, hein, il était équipé de la tête aux pieds, c'était un guerrier. Il ne restait pas grand place pour que la roche allait juste où Dieu voulait qu'elle aille, quoi. Goliath marche et le texte nous dit que David lui courait. Ouais. Il courait vers Goliath. Il faut savoir la foi. Moi, je ne sais pas, j'aurais fait un pas en avant, trois pas en arrière, un pas en avant, trois pas en arrière, quoi. Mais il court vers Goliath. Il prend sa petite fronde, quoi. Il y a une pierre ponie. Il ne s'est pas arrêté. Un peu, entre les deux yeux, quoi. Non! Il court en courant, il tire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui dirige toutes choses dans la vie de Goliath, dans la vie de David. Et c'est Dieu qui va diriger la pierre ici où elle va aller pour abattre le géant qui vient insulter son peuple. Les frères et sœurs, dans nos vies, quand on marche par la vue, souvent aussi, ce sont les géants de toutes sortes, des montagnes que le diable place devant nous, qui nous paralysent, qui nous terrassent de peur, qui nous empêchent de progresser, qui nous empêchent d'être consacrés au Seigneur, parce qu'on marche par la vue, on garde nos yeux sur les qualifications plutôt que sur la consécration. Et ce que Dieu veut, c'est des gens consacrés. Rapidement, les voies de Dieu pour nos vies peuvent nous conduire à travers certaines eaux tumultueuses, mais tant et aussi longtemps que vous ne suivez pas Dieu pour le voir faire l'impossible dans votre vie, comment pouvez-vous savoir ce qu'il peut faire pour vous? Pensez à Marthe et Marie, pensez à Moïse, pensez à David, pensez à Noé, pensez aux disciples sur le lac là, en pleine tempête, pensez aux trois Hébreux dans la fournaise ardente. Lisez les paroles de Shédrach, Meshach et Abednego. Hey, c'est toi le roi, tu te prends pour qui? Tu veux nous envoyer dans le feu, pas de problème. Et si Dieu a décidé qu'on ne brûlera pas, qu'on ne mourra pas dans le feu, on ne brûlera pas, c'est pas toi qui veux nous empêcher. Et qu'est-ce qui se passe? Avant même qu'ils soient dans la fournaise, Jésus les attend là. Ils sont quatre. Quand on réouvre les portes, ils sont quatre. Ils sont rentrés trois, et les soldats, lorsqu'ils ouvrent les portes de la fournaise ardente, ils en voient quatre. Jésus était à leur côté. Frère et sœur, si Jésus était à côté des croyants de l'Ancien Testament, qu'il était à côté des croyants du Nouveau Testament, eh bien, vous pouvez être certain qu'aujourd'hui, Jésus est à vos côtés. Et non seulement il est à vos côtés, vous avez une faveur encore plus extraordinaire, il est encore plus proche qu'à vos côtés, il est à l'intérieur de vous par son Saint-Esprit. Souvent, j'entends des chrétiens qui disent, « Moi, j'aurais aimé ça être dans le temps des disciples. Ils étaient avec Jésus. » Jésus est à leur côté. Frères et sœurs, on est encore bien plus chanceux qu'eux. Jésus est en nous. On est encore bien plus proche qu'à côté, ça, hein? Il est rentré. Son Saint-Esprit habite en nous. Et il a dit, « Celui qui croit en moi fera encore de plus grandes choses que moi. » C'est une promesse. Spirituellement, en terminant, êtes-vous rendu là où Dieu veut que vous soyez? Avez-vous atteint cet endroit dans votre vie où vous pouvez dire honnêtement, « Je m'efforce de faire la volonté de Dieu. Je suis là où Dieu veut que je sois. » Si vous êtes là où Dieu veut que vous soyez, permettez-moi de vous encourager, comme Élie, à demeurer là. Remarquez que lorsqu'Élie est arrivé à Kérit, il est écrit qu'il s'est établi là. Et le mot « établi » ici dans l'hébreu signifie « vivre » ou « s'installer ». Élie s'est installé dans une situation. Dieu veut nous amener là, spirituellement, pour qu'on s'installe dans une communion permanente avec lui. Il veut qu'on s'installe. Et Élie est parti là, il a fait ce que Dieu lui a demandé, et il est demeuré là, jusqu'à ce que Dieu lui ordonne de se rendre à un autre endroit. Donc, frères et sœurs, si vous êtes arrivés là où Dieu vous a demandé d'être, restez là jusqu'à ce qu'il vous ordonne d'aller ailleurs, comme Élie. Mais si vous n'êtes pas encore arrivé là, et que vous savez que vous êtes en train, à quelque part, de passer à côté du meilleur que Dieu a pour vous, parce que vous n'êtes pas là, où il voudrait que vous soyez, présentez-vous devant le Seigneur ce matin pour lui demander qu'il vous montre où il veut que vous soyez. Parce que Dieu veut vous avoir là, un endroit précis pour vous. Parce que Dieu a une œuvre à accomplir à travers vous, frères et sœurs. Lorsqu'il vous montrera cet endroit où il veut que vous soyez, efforcez-vous d'aller là et demeurez là jusqu'à ce qu'il vous indique de partir de là pour aller encore une fois là où il désire que vous soyez. Frères et sœurs, je vous laisse avec cette réponse ce matin. Si vous n'êtes pas là où Dieu veut que vous soyez, ayez l'assurance dans vos vies que Dieu va tout faire dans vos vies, va provoquer des choses pour que vous alliez là où il veut que vous soyez, si vous lui appartenez sincèrement. Que Dieu vous bénisse ce matin et que ce passage d'Élie puisse nous rappeler que lorsqu'on obéit au Seigneur, lorsqu'on obéit au Seigneur quand il nous ordonne d'aller là où il veut qu'on aille, eh bien, on verra Dieu accomplir de grandes choses dans nos vies. On verra des miracles se produire. Et on sera une bénédiction pour les autres. Amen.